Je m'appelle PES, je fais partie du collectif Pinode, PES, PES, mes initiales, je suis aussi connu sous le nom d'Eden Edition, je dis ça parce qu'on va parler de livres, donc je fais aussi des zines, qu'on appelle ça des zines, ou des graphzines, ou des fanzines, je suis dans Pinode depuis le début, on se demandait quand est-ce que c'était 2014, 2013, enfin quand on est venu à Gantner, c'était vraiment presque notre première année fondatrice, on va dire. On revenait de Berlin, mais bon, c'est une autre histoire. Je te présente. Donc, baladé un peu dans les. J'ai toujours trouvé drôle, bizarrement classé, mais ce bizarre est intéressant, en fait, la façon dont vous classez vos livres, qui ne sont pas une façon courante, quoi, si je me permets de faire cette observation, hein, par rapport aux livres que vous avez. Ce n'est pas une façon tout à fait courante de la façon de classer les livres. Manière de séparer, par exemple, d'associer des écrits d'écrivains comme Bret Easton Ellis, mais de mettre bon, avec Burroughs, mais aussi d'avoir juste à côté Tristan Tzara. C'est des choses comme ça qui, normalement, dans des rayonnages plus classiques et institutionnels, c'est des choses qu'il n'y a pas, quoi. Donc ça, c'est intéressant pour les jeunes qui viennent ici dans des endroits comme ça. Un peu au hasard, vraiment, si moi j'avais eu la chance, je sais pas, à 14, 15, 16 ans de venir dans un endroit comme ça, je crois que, je vais pas dire que j'aurais gagné du temps, quoi, mais je veux dire, vraiment, ça aurait été vraiment incroyable, quoi, vraiment incroyable. Je vois, les DVD, les CD de La Joie Nonne, je vois Alan Vega, ou le VHF, ça doit être L'Aigle en haut, ça doit être Sunroof. Sunroof, ah non, c'est Vibra Cathedral Orchestra. Bref, voilà. Quoi. Donc, comment il s'appelle? Don Byers. Non, pas Don Byers, Non, c'est celui qui est l'anglais qui est un petit peu. Bon, bref, c'est notre histoire. Donc, j'ai amené deux livres, parce que le temps roule. Plus des poètes, il y a des choses. Vous avez des livres plus sur la musique ou sur les arts médias. Vous avez un rayon hacker intéressant, d'ailleurs. Rayon. Sur le underground, BD underground d'ailleurs, mais il n'y a pas trop. Je ne vais pas faire trop de remarques désagréables. Mais comme j'ai dit, c'était vraiment. Il y a des choses intéressantes, dont vous avez un poet's corner, quoi, comme disent les Anglais, quoi, le coin des poètes, où j'ai trouvé des belles choses, dont Pélieu, Claude Pélieu. Alors Pélieu, c'est un poète que j'aime beaucoup parce que c'est un Français qui parle aussi, qui a écrit des poèmes, un des premiers à avoir écrit dans les années 60, fin 50, 60, à avoir mixé l'anglais avec le français, quoi. Il faisait des poèmes, comme moi je fais ça aussi en fait, et puis beaucoup de gens maintenant on parle tellement avec des anglicismes aujourd'hui que, enfin, lui déjà dans les années 60, il avait déjà cette manière d'un Français vivant à New York, faisant partie de la Beat Generation. Donc il y a un livre célèbre d'une collection qui s'appelle Les Cahiers de Lerne, qui étaient des gros livres grand format, qui s'appelle, il y en a un qui s'appelle Kaufman, Burroughs, Pélieu, qui étaient les trois poètes de la Beat Generation. Donc William Burroughs, Claude Pélieu et Kaufman, qui est moins connu, qui était un poète africaine-américaine, on dirait maintenant aujourd'hui, dont on n'entend plus trop parler, alors qu'il a vraiment fait partie de la Beat Generation, de ce groupe-là. Et donc, comme Burroughs, Pélieu faisait des cut-up, il a fait aussi beaucoup de cut-up, mais en collage, quoi. Il faisait aussi des collages d'articles, des titres de journaux trouvés dans la rue et qui collent avec un paquet de clopes. Bon. Et son mode de poésie est aussi un peu sur ce mode-là. Donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup, quoi, Pélieu. Claude Pélieu, il n'est pas très connu encore, il est undermined, hein, comment dire, sous-estimé, comme diraient les Français, vraiment sous-estimé, quoi, alors que pour moi c'est quand même quelqu'un que j'estime de très très important. Il a fait des, Il a traduit Bureaus, il a fait avec Mary Beach, il y avait souvent les traductions Claude Pélieu and Mary Beach, qui a fait. Donc il a beaucoup fait, il a œuvré pour faire connaître la littérature et la poésie américaine en France, quoi. Voilà, ça c'était important, il a fait vraiment ce travail-là. Et lui, en tant que. Souvent, c'était souvent cliché, on appelait ça. Enfin, c'est une écriture de poèmes rock'n'roll. Il y en a un qui s'appelle. Comment ça s'appelle ? Il y en a un qui s'appelle l'appel des morts giclant Eden Express. Ça donne tout de suite le genre, je vais vous en lire 3 secondes, je vais en lire quelques secondes. Un petit bout de ciel dans notre filet, solution finale, une autre Mona Lisa éclatée, piégée dans une cigarette de copeaux, brassée de doigts morts à Piccadilly et à Times Square. La brigade Gay Ciseau, section d'assaut de la génération grise et invisible. Génération grise étant la Blank Generation et la génération invisible étant Blank Generation avec Vaudoïd, Richard Hell, merci. And the Vaudoïd. La Blank Generation qui était le terme qu'avait utilisé Burroughs pour la désigner, que cette génération presque morte juste après le début des années post-punk, quoi, ce qu'on appelait le post-punk. Nord-Sud Express, Trans-Europe, Puke, Crampe policière, Poupée jamboisée, violée par Guy Leclerc, La Boum Sépia revient sur l'écran même respirer l'ozone du champ tribal. Je te revois en sueur sur le siège arrière de la Buick, reniflant au-dessus ton bol de dinde froide. Demain, oui, avec les clodos de la nuit terroriste. Donc voilà, c'est un peu cette espèce de poésie avec beaucoup de mots anglais. Là, c'est plus des noms propres, mais il y a aussi il y a un poème, un titre de poème célèbre qui s'appelle Tatouage, un poème, un recueil de poèmes qui s'appelait Jukebox, qui était dans 10-18 à l'époque. On voyait Pélieu sur la pochette avec des vraiment cheveux longs, petites lunettes de soleil dans le style Seeds. Et puis ça s'appelait Tatouage de menthe, tatouage mentholé. Enfin voilà, des blagues comme ça. Mais j'aime beaucoup Pélieu. On va passer au deuxième que j'aime bien, qui est un type alors plus. Aussi un poète, qui est aussi également très très important pour moi dans ma vie. C'est grâce à un film qui s'appelle Lost Horizon, qui est un film de Capra, mais que c'est un type qui s'appelle Jean-Paul Le Besson. Qui a réalisé un film sur Stanislas Rodansky. Alors Stanislas Rodansky, c'est un poète français qui a commencé à écrire juste à la sortie de la Seconde Guerre mondiale du XXe siècle, en 47-48, et qui faisait partie des surréalistes, de la deuxième génération, on va dire, des mouvements surréalistes. Il s'en est fait expurger très très rapidement. Mais il a fait partie des premières revues surréalistes de l'après-guerre qui s'appelle la revue Néon. C'est même lui qui avait trouvé le titre, qui est un bon titre, quoi. Néon au pluriel, c'est un bon titre de revue, je trouve, en tout cas de revue de poésie. Ça donnait le côté électrique, urbain, nuit, enfin, ça, le néon, ça, tout de suite, ça évoque des choses, les bars, enfin bon. Et il a eu une vie très courte, un peu. Beaucoup de gens ont dressé le parallèle avec Artaud, en fait, hein, avec Antonin Artaud, parce que, en fait, lui, Rodansky, a eu une vie très courte, une vie sociale, on va dire, très courte, et il est rentré en hôpital psychiatrique pour y passer au moins plus de la moitié de sa vie. C'est-à-dire qu'il rentre en hôpital, je pense, à partir des années milieu 50, fin 50, pour y rester, quoi. Donc il a passé quasiment une grande partie de sa vie de son propre gré, par contre, à la différence d'Artaud, où Artaud, ça a été un peu plus problématique par le fait qu'il avait pas beaucoup d'argent et qu'il a d'abord été emprisonné par ses excentricités. Et c'est par le fait qu'il n'avait pas beaucoup d'argent qu'il a été enfermé d'office, on va dire. Alors Rodansky, en dehors même de la folie qui est un trait de sa personnalité, mais qui est pas très, moi je suis pas très, comment dire, je suis pas très Sainte-Beuvien, c'est-à-dire la vie de l'auteur par rapport à son écrit, ça, c'est toujours intéressant, ça éclaire d'une certaine manière, mais ça ne donne pas la réalité de la puissance que ça peut être Il y a les pires crapules qui peuvent exister, qui peuvent être de bons écrivains, et à l'inverse, des gens qui sont des anges et des hommes qui ont une humanité formidable et qui sont de très mauvais écrivains. Quoi, voilà. Si tout allait avec tout, on le saurait déjà. Quoi. Bon. Donc, l'éclairage sur la vie de l'écrivain, c'est intéressant. Pour recomposer, pour remettre dans l'ordre, quand on connaît l'œuvre une par une, de manière chronologique, c'est toujours intéressant. Mais en dehors de ça, ça l'éclaire moins. Je vous dis ça par rapport au passage de Randonski, par rapport à qu'il est passé plus de la moitié de sa vie en hôpital psychiatrique, ça n'éclaire en rien à la qualité de son œuvre. Il a écrit plusieurs livres, c'est Bourgois qui l'avait édité à l'époque. C'est fini ? Qui avait édité à l'époque Bourgois et qui disait sur qui avait recueilli un ensemble de son œuvre et il avait l'habitude de un des premiers qui s'appelle La Victoire à l'ombre des ailes et qui est un espèce de roman d'espionnage mais dont écrit de manière vraiment comme de la prose quoi, une espèce de poésie. C'est difficile à décrire Randonski quand on n'en a pas lu. Mais donc, il arrivait à mélanger un peu, vous voyez, quelqu'un qui est fan de série B, film d'espionnage. Il mêlait des romans comme ça, les romans d'espionnage style Fleuve Noir, ça s'appelait à l'époque, les romans comme ça, et matinée d'une histoire d'amour, d'un amour fou d'un homme et d'une femme qui se retrouvent, parce que l'avion a été descendu en flammes par la DCA, ils atterrissent sur une petite île, ils sont perdus sur une île du Pacifique, et il y a une histoire de passionné, d'amour entre un homme et une femme, et donc la façon dont l'a décrit Randonski, vraiment c'est très très beau. Alors là, le livre que j'ai ramené, ça s'appelle « Éclat d'une vie », donc c'est un ouvrage, il y a le DVD, donc vous avez le film, donc ça c'est formidable, ça, je conseille vraiment de le regarder, c'est un super film, vraiment un film assez court, de 20 minutes, 30 minutes à peu près, filmé en 16 mm noir et blanc, avec la voix c'est la voix de Randonski, il est filmé aussi, parce que en fait, Le Besson a fait un film où il est à Lyon, à l'hôpital, là où vivait Randonski. En fait, Randonski, on le voit, il est filmé, on voit les lieux dans lesquels il vit, on le voit, il a une énorme barbe, et puis à un moment, hop, il est rasé, enfin, il y a des trucs un peu délirants. Ça permet en même temps, on rentre dans l'histoire que nous raconte Randonski, quoi. Il y a une voix off qui nous est racontée parallèlement à ce qu'on voit. Ça pourrait être filmé comme un documentaire, puis en fait, c'est pas du tout un documentaire, c'est une fiction, on rentre dans une fiction. Il parle de Shangri-La, qui est cette espèce de pays imaginaire, vous connaissez, voilà. Donc Shangri-La, qui est une espèce de pays imaginaire coincé dans une vallée du Tibet, et où les gens seraient immortels. Et donc ça fait partie, voilà, dans les univers des livres de Randonski. Shangri-La est quelque chose de très important parce que c'est un film de Capra dans les années 30 qu'avait vu Randonski et qui est un film qui l'a beaucoup marqué, qui est le premier film qui raconte cette histoire de Shangri-La. Voilà, ça fait 5 minutes, non? Et ça, c'est un film de 77, donc en 16 mm noir et blanc. Et dedans, donc, le livre qui est un recueil de Bernard Cadou, Jean-Paul Le Besson, c'est doit être lié en partie avec ce film. Et donc, il y a beaucoup de documents. On voit les dessins de Randonski, on voit ses photos, on voit ses collages, les lettres qu'il envoyait. Ouais, une chose vraiment très, très belle. Vraiment, j'aime beaucoup Randonski. Ça fait partie des grands auteurs pas encore connus, on est en 2020, et ça fait partie vraiment des gens qu'il faut encore découvrir pour aujourd'hui. Voilà.